Alors, après ce petit tour à Caen, en Normandie, je crois qu'on va vers Orléans avec Rémi Jiménez qui va nous parler de picole et de rock.
Bien, bonjour à tous. Alors je vais commencer comme le temps nous est compté, je vais abréger l'introduction. Vous dire simplement que d'abord je ne suis pas spécialiste d'histoire du rock, puisque je travaille habituellement sur l'histoire de la typographie au XVIe siècle. Ensuite que je vais vous parler d'une histoire dont je n'ai pas été le témoin et dont sans doute plusieurs d'entre vous dans la salle ont été témoins. Alors je ne sais pas si vous allez vous reconnaître, j'espère que oui, mais j'en suis pas sûr. Si je dis des âneries, vous me corrigerez par la suite. Le titre de cette communication, certains l'auront reconnu, c'est « Unis par le vin ». C'est le titre d'un morceau de Comintern Sect, un groupe orléanais des années 80. Après 30 ans d'absence, Comintern Sect s'est reformé en 2014 pour un concert qui n'a pas eu lieu à Orléans, mais à 2000 km de là, en Suède, à Stockholm. Cette reformation était visiblement attendue, si on en juge par l'ambiance du concert dont je vais vous montrer un extrait. Alors je vous ai choisi un extrait justement d'Unis par le vin. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, j'ai rajouté les paroles. Vous verrez qu'on est là sur une simplicité évangélique du texte. Je ne sais pas si ça marche. Voilà, vous voyez que l'ambiance est bonne. On peut s'étonner qu'après 27 ans d'absence, ce groupe provincial se reforme pour jouer aussi loin de sa base, en Suède, à Stockholm, devant un public non francophone qui, de toute évidence, connaît les paroles par cœur. On peut aussi s'étonner de voir que ce groupe qui, dans les années 80, avait fait moins d'une trentaine de concerts, pour l'essentiel dans le Loiret ou dans les départements limitrophes, se retrouve aujourd'hui invité à jouer en Colombie, en Espagne, en Allemagne, aux États-Unis, en Angleterre, et ils ont fait leur premier concert en France la semaine dernière à Saint-Brieuc. Je ne sais pas s'il y en a qui y étaient, moi j'y étais pas. Bon, derrière le succès actuel de Comintern Sect, il y a l'histoire d'une scène punk qui s'est structurée à Orléans autour de deux groupes principaux, Reich Orgasm et Comintern Sect, et autour d'un label, KO Productions, qui semble avoir joué un rôle important dans l'émergence d'une scène provinciale française au début des années 80. Donc l'histoire du punk orléanais débute en 78, j'ai mis 79 mais c'est 78, le jour de la séparation des Sex Pistols, paraît-il, lorsque quatre jeunes lycéens forment Reich Orgasm. Ce nom est une référence au psychanalyste allemand Wilhelm Reich, car le groupe se revendique d'emblée comme une bande d'obsédés sexuels. Si l'on en croit une interview donnée 20 ans plus tard par Hervé, le batteur, à ce moment, aucun des membres du groupe ne savait jouer d'un instrument. Le but de cette formation n'était pas musical, mais relevait d'un esprit de contre-culture anarcho-nihiliste. Fin de la citation. L'esprit initial est donc à la provocation. Reich Orgasm défend un punk rock teinté de rock'n'roll avec des paroles absurdes et provocatrices sur des thèmes généralement sexuels ou politiques. Le premier concert en 79 à la Maison de la Culture d'Orléans est interrompu par le service d'ordre. Le deuxième en 80 tourne court lui aussi. Le premier enregistrement a lieu en 80 puisque le groupe enregistre une démo cassette dont vous voyez ici la pochette. La même année, Reich Orgasm est interdit d'antenne sur Orléans FM après avoir énoncé en direct son souhait de sodomiser l'auditoire. Les débuts sont donc difficiles, mais c'est autour de Reich Orgasm que va se regrouper toute une bande de jeunes punk orléanais, parmi lesquels Jeannot, le rodi du groupe, et Punky, un fan qui décide en 1981 de créer leur groupe, c'est Comintern Sect. Ils sont encore plus beaux en grand que sur mon écran. Les voici. Donc c'est ceux que vous avez vu jouer tout à l'heure. Fort de cette base, le 23 mai 82, la centrale des artistes du centre organise un festival punk à la salle des fêtes d'Olivet dans la banlieue d'Orléans. La manifestation est remarquée. Les nouvelles d'Orléans écrivent, qui rendent compte du festival, écrivent « Festival punk à Olivet, la galère. Les conditions dans lesquelles sont parus les groupes étaient tellement déplorables qu'on ne saura jamais qui on doit incriminer, la sono ou les musiciens. » Il n'empêche que c'est cette année-là, en 1982, que les choses vont se cristalliser. Les Orléanais découvrent Paris Mix, la première compilation punk française qui ne regroupe, comme son nom l'indique, que des groupes de Paris. C'est un électrochoc pour Hervé, le batteur de Reich Orgasm, et pour Punky, le guitariste de Comintern Sect, qui décident tous les deux de répondre aux Parisiens en créant leur propre label, indépendant et clairement identifié comme provincial. Ce sera KO Productions, dont le logo, vous le voyez, s'inspire de la statue de Jeanne d'Arc qui se trouve en centre-ville d'Orléans, place du Martroi. En novembre 82 paraît Apocalypse Chaos, une compilation qui réunit les deux groupes orléanais, Reich Orgasm et Comintern Sect, et leurs copains de Blois, Kidnap et No Pub. Le succès est curieusement au rendez-vous. La compile pressée à 1000 exemplaires, diffusée par New Rose, qui paye les pochettes d'ailleurs, s'écoule en moins de 6 mois et elle est immédiatement repressée. Chaos Productions ne tarde pas à recevoir des démos d'innombrables groupes provinciaux qui décident de s'adresser à la filière orléanaise plutôt qu'à des labels parisiens. Et c'est ainsi que 5 mois plus tard paraît Chaos en France, en avril 83, seconde compilation du label, qui regroupe des groupes de tout l'Hexagone, Paris exclus. Alors on a là, évidemment, la petite bande orléano-blaisoise, comme Intern Sect, Reich Orgasm, Kidnap, un groupe de Tours qui s'appelle Foutre, des formations de toute la France, Caméra Silence à Bordeaux, dont on a parlé tout à l'heure, Dry O'Clock à Fumel, Blanc SS à Saint-Étienne, Décontrôle à Menton, Nos Classes à Longueville, Sneaks à Lille, Subkids à Dunkerque, Les Collabos à Brest et les Trotskids à Rennes. La plupart de ces groupes enregistrent ici pour la première fois. La presse musicale parisienne n'est pas tendre à l'égard de cette production artisanale. Le magazine Rock dénonce en août 83 l'aridité de la musique, la production inexistante et l'interprétation généralement approximative des groupes. Le critique de Rock and Folk, alors je ne sais pas qui c'est, peut-être Nick Kent, mais je ne suis pas sûr, donc on a dit qu'une critique dans Rock and Folk était la consécration ultime. Eh bien, le critique de Rock and Folk, en juin 83, écrit, je vous la lis un peu longuement parce que c'est cool, « Plus nul que tu meurs, sur le champ ». Il ne m'était jamais arrivé de tomber sur une merde pareille. Tout est minable, tout, des noms de groupe à la pochette. Je crois qu'il est impossible d'imaginer ce que peut être le son de ces choses-là. Les paroles vont du beauf parfait au militant ringard. Aucun groupe n'est capable de jouer son morceau en entier et ensemble. Inutile de parler de musique, de morceaux ou de chansons, c'est inexistant. Donc si les gros titres de la presse parisienne sont plutôt dédaigneux, les fanzines, eux, sont généralement élogieux et témoigne de l'impact réel que cette compilation a eu dans le milieu punk, en tout cas en province. De toute façon, pour Chaos Productions, le message est passé, il existe dans toute la France une scène punk active qui ne doit rien à Paris. Et on trouve d'ailleurs, sur le premier volume de Chaos en France, des tubes qui sont depuis restés comme de véritables hymnes au sein de la scène punk. Pour la gloire de Caméra Silence, c'est Chaos en France. Gueule d'enfer de Trotskid, c'est la même chose, unis par le vin de Comintern Sect aussi. À partir de là, les Orléanais gagnent en crédibilité. Les groupes font des concerts de plus en plus fréquents. Les Nouvelles d'Orléans publient en 83 un grand dossier sur l'invasion punk du centre-ville, avec ce titre accrocheur, donc la photo c'est le guitariste de Comintern Sect. Le titre accrocheur, ils vénèrent Hitler, les ordures et les déchets, haïssent les bourgeois, les institutions et le quotidien. Pour eux, la colle a remplacé le kill de rouge. La même année, Comintern Sect est invité à jouer au festival Rock d'Orléans et s'attire les éloges des critiques locaux. Cette fois-ci, les Nouvelles d'Orléans titre « Parents, vous ne riez plus, vos enfants étaient peut-être dans la salle ». La dynamique est lancée. En juin 84, Chaos Productions récidive en sortant Chaos en France volume 2. Alors je reprends ma carte. On y découvre toujours, enfin, une grande partie des groupes qui étaient sur le volume 1, auxquels s'ajoutent cette fois-ci Cambronne de Castres, Les Brigades de Bordeaux, Nana Bonnard d'Angers, Criminal Damage de Brest, The Rats de Dunkerque et Mopomogo de Colmar. Toujours aucun groupe parisien. En mai 85 sortira une dernière compile dont la pochette est hideuse, Chaos in Europe, qui accueillera quelques groupes étrangers. Parallèlement à ces compilations, Chaos Productions sort la production des groupes. Un 45 tours pour Kidnap en juillet 83, un autre pour Nos Classes l'année suivante, des albums pour Reich Orgasm, Trotskids et Les Collabos en 84, pas moins de 3 albums pour Comintern Sect en 83, 85 et 86, et une dernière production, le LP d'Al Capote en 87. Donc on voit, en 2 ou 3 ans, derrière Chaos Productions s'agrège toute une scène punk provinciale. Mais de quel punk parle-t-on précisément? La question mérite d'être posée parce qu'en réalité, même si les connaisseurs n'hésitent pas à parler des années Chaos pour décrire cette dynamique, on doit quand même remarquer que cette scène est largement protéiforme. Il n'est que de comparer les deux groupes orléanais qui nous intéressent ici. D'un côté, Reich Orgasm, qui sonne très punk 77, inspiré par des groupes de rock'n'roll, marqué par un esprit très fortement provocateur, avec des paroles axées sur le sexe et la volonté de tout tourner en dérision. Et de l'autre, Comintern Sect, qui, sous couvert de provocation, se revendique dans une interview dès 82 comme un groupe, je cite, « engagé à la fois nationaliste et anarchiste ». En fait, Comintern Sect s'inspire de la scène oi anglaise, avec ses gros cœurs et ses rythmes très lourds. Le groupe revendique ses influences à longueur d'interview, Infra Riot, Cockney Rejects, Sham 69, qui sont systématiquement cités. Dans une interview accordée à Surf Up en 83, Karl, le chanteur, indique qu'il écoute tous les groupes Oi, et Jeannot trouve utile de préciser qu'il déteste Crass. Les influences de Comintern Sect se traduisent notamment par une évolution vestimentaire assez lisible si on compare les premières photos du groupe en 81 et celles prises en 86. Le bomber a remplacé le perfecto, et les cheveux ont été rasés. Dès le début, en réalité, Comintern Sect s'inscrit dans une esthétique qui est celle du mouvement skinhead, qui arrive à cette époque-là en France. Ça se traduit dans les paroles par l'omniprésence de thèmes martiaux et guerriers, et par un patriotisme un peu cocardier, souvent sous couvert de provocation, avec l'affichage notamment du drapeau français à l'arrière de la scène. Alors il faut quand même rappeler ici, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, que dans les années 80-83, le mouvement skin venu d'Angleterre n'est encore associé à aucune idéologie politique claire. Quand on parle d'un skinhead aujourd'hui, on a tout de suite l'image du néo-nazi, etc. Ce n'est pas du tout le cas encore au début des années 80. C'est seulement à partir de 83-84, si j'ai bien compris, qu'une partie des skins français va dériver vraiment vers l'extrême droite. À l'origine, à Orléans comme partout ailleurs, punk et skin traînent tous ensemble, dans les mêmes concerts, dans les mêmes bandes, sans que ça pose de problème à qui que ce soit. N'empêche qu'entre le rock nihiliste de Reich Orgasm et la Oi guerrière de Comintern Sect, on peut se demander ce qui a pu donner une certaine cohérence au projet. Qu'est-ce qui caractérise ce punk des années KO ? Il me semble que les groupes rassemblés autour de KO Productions partagent trois caractéristiques communes. D'abord, leur sens de la fête. Ils s'inscrivent pour la plupart dans une lignée un peu franchouillarde et gauloise. J'ai appris que les Blaisois de Kidnap et les Orléanais de KO Productions avaient fondé une confrérie destinée à organiser des bonnes bouffes et des bonnes fêtes. Voilà l'état d'esprit. Parmi les groupes sortis sur KO Productions, on note l'omniprésence de thèmes que je qualifierais volontiers de rabelaisiens, comme je bosse au centre de la Renaissance, j'ai le droit. Chansons à boire, chansons paillardes, avec des paroles volontiers pornographiques, voire scatologiques, et un côté beauf souvent assumé. La provocation, c'est aussi être beauf. Deuxième caractéristique, et ça va ensemble, le refus du punk branché. La revendication provinciale doit être comprise, je dirais presque comme une réaction de classe, face à une certaine scène parisienne perçue comme prétentieuse et bourgeoise. Chez KO Productions, on a plutôt affaire à un punk rock sans grande prétention artistique. Un punk rock de la rue, même si l'expression street punk n'existe pas beaucoup, pas encore. Beaucoup de membres de ces groupes sont issus du prolétariat et de la classe moyenne inférieure, beaucoup d'enfants de divorcés, voire d'orphelins. Beaucoup de mauvais garçons, de vrais zonards, avec chez certains une espèce de conscience de classe extrêmement marquée. Enfin, la plupart de ces groupes semblent rejeter radicalement toute forme de prosélytisme politique. Même si on lit quelques remarques au sujet des squats orléanais dans les interviews de Comintern Sect, on est très loin des discours anarcho-punk façon crasse ou du militantisme radical. Pourtant, si on y réfléchit bien, KO Productions a sans doute été le premier label autonome d'importance en France. Mais ces acteurs ne se sont livrés à aucun prosélytisme do it yourself. L'expression n'apparaît jamais même dans les interviews que j'ai pu lire. Ils n'ont jamais théorisé leur démarche. Ce refus du prosélytisme politique va parfois jusqu'à l'ambiguïté. Et c'est sans doute au nom de ce je m'en foutisme que Comintern Sect, par exemple, a pu jouer dans des concerts avec des groupes skin clairement affichés à l'extrême droite. Je pense à un concert avec Evil Skin en octobre à Champigny, en octobre 85 à Champigny. Sens de la fête, refus du punk bourgeois, apolitisme, c'est sans doute au nom de ces trois principes qu'un groupe comme Comintern Sect défend l'unité entre punk et skinhead, une unité dans l'insouciance et dans la fête. Des morceaux comme « Unis par le vin »,« Tous ensemble » ou « Plus fort que tout » sont autant d'hymnes au compagnonnage entre punk et skin. Seulement à partir de 84, cette ligne devient de plus en plus difficile à tenir. Il faut dire que politiquement, les choses sont en train de changer, on l'a déjà évoqué un peu tout à l'heure. Le score du Front National aux élections européennes de juin 84 a eu une influence décisive sur la politisation de la scène punk. En 85 sortira « Concerto pour détraquer » des Berruriers Noirs, avec son titre « Porcherie », qui entraînera une grande partie de la scène punk dans un militantisme antifasciste très marqué. Et la même année, en 85, Serge Ayoub, alias Batskin, politise les skins parisiens et les hooligans, les skins et les hooligans parisiens, en fondant le Nazi Clan. Dans ces conditions, entre des punks qui se placent de plus en plus clairement à gauche et des skins qui sont de plus en plus marqués à l'extrême droite, les appels à l'unité de Comintern Sect sont un peu dérisoires. La scène orléanaise constitue justement, je pense, un bon observatoire pour analyser ces tensions entre punk et skin qui surgissent à partir de 84, et ce sera mon dernier point. En octobre 84, KO Productions organise un festival à Orléans, à la salle du Baron, avec pas moins de 7 groupes. Sur le plan musical, ce sera un franc succès. La République du Centre, qui est le journal local le plus important, publiera même un article, un compte-rendu, dont le titre enthousiaste peut aujourd'hui surprendre. « Punk et skin, futur pour tous ». Ça, c'est la République du Centre en 84. Pourtant, la tonalité des comptes-rendus publiés dans les fanzines punk est bien différente. « Aliénation » titre « Un concert saboté ». Il faut dire que le Chaos Festival de 84, au Chaos Festival de 84, le public s'est retrouvé pris en otage entre, d'une part, un service d'ordre viril assuré par les damnés, des bikers orléanais qui allaient bientôt devenir Hells Angels, et de l'autre, des skins parisiens d'extrême droite venus à Orléans pour casser du punk. Pendant le concert, dans la salle, les skins parisiens tendent le bras droit et crient Sieg Heil lorsque kidnappent Juno SS, en tout cas c'est ce que nous raconte le Zine Aliénation, qui évoque aussi des tabassages en règle à la sortie. Peu de temps auparavant, un concert organisé rue de Bourgogne avait été largement perturbé par des skins parisiens également, qui avaient passé la fin de soirée à chasser les punks qui traînaient dans le centre-ville d'Orléans. Fabien, le chanteur de Reich Orgasme, qui avait passé tout son concert à crier mort aux skins, avait été reçu à la sortie. Parallèlement, l'affichage trop ouvertement skinhead de Cominternsec lui vaut quelques tracas aussi. La provocation sur des thèmes guerriers, sur l'ultra-violence ou sur le viol, ne passe plus du tout en 84-85, comme en témoigne ce tract de la fraction rock terroriste, c'est les Lyonnais de N-Brigade, des anarcho-punks, qui doit dater, je pense, ce tract de 85 et qui en appelle ouvertement à boycotter, je cite, « tous les disques merdiques de chez K.O. » et notamment le deuxième album de Cominternsec, groupe qualifié de « facho ». Le concert avec Evil Skin en octobre 85 vaut d'ailleurs au groupe un compte-rendu un peu triste dans un fanzine que je n'ai pas identifié, dont l'auteur conclut « Je ne remets pas en cause leur talent, mais plutôt leur intégrité ». Dans ces conditions, les choses s'essoufflent vite, les énergies se dispersent. Ceux qui tenaient la scène depuis 82 sont usés, fatigués par des problèmes de violence récurrents dans les concerts au sein de leur public, et ne se reconnaissent pas non plus dans la nouvelle dynamique du rock alternatif alors naissant. Reich Orgasme cesse de jouer en 86, Cominternsec en 87, et c'est aussi en 87 que K.O. Productions cessera ses activités. Alors, au terme de ce parcours, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette scène orléanaise des années 80 ? D'abord, l'importance de K.O. Productions qui apparaît, je pense, comme un catalyseur décisif pour la scène punk provinciale. K.O. Productions a permis au punk rock d'exister au début des années 80, à une époque où la première vague, celle de 77, s'était déjà éteinte et où le rock alternatif n'avait pas encore pris son envol. Le succès commercial a été largement au rendez-vous. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, les albums de Cominternsec sont pressés chacun à 3000 exemplaires. Entre 5 et 7000 exemplaires du LP de Reich Orgasme auraient été vendus. Les compilations K.O. ont été diffusées elles aussi à des milliers d'exemplaires, j'ai pas les chiffres, on les trouvait à la FNAC. Elles figurent même en juin 83, K.O. en France volume 1 figure même en juin 83 dans les 5 meilleures ventes de chez New Rose. Et il n'y a aucun doute que K.O. Productions a donné une visibilité inespérée à un certain nombre de groupes qui, sans elle, n'auraient jamais pu sortir. On comprend donc que cette histoire ait marqué les esprits. C'est ce qu'atteste le succès actuel de Cominternsec, qui veille aujourd'hui, je le précise, à ne jouer que dans des festivals et dans des concerts ouvertement affichés comme antifascistes. On trouve régulièrement des références aux années K.O. dans la production de groupes punk d'aujourd'hui. Il me reste une phrase. Je citerai qu'un seul exemple, c'est celui d'un autre groupe d'Orléans, les Bavarians, dont le 45 tours sorti en 2010 rend, je pense, clairement hommage à leurs aînés orléanais. Il me semble qu'il est donc utile de se pencher sur l'histoire de la scène punk orléanaise, parce qu'il s'y est de toute évidence joué quelque chose d'important à l'échelle nationale, parce qu'aussi c'est le témoin d'un certain nombre de phénomènes qui, je pense, ont affecté toute la scène punk partout en France, mais qu'on peut ici approcher de manière simple. Voilà, je vous remercie de votre attention. Pardon. Juste un mot sur mes sources. J'ai passé quelques entretiens pour préparer cette communication. J'ai surtout pioché toute l'iconographie que vous avez vue sur deux sites internet, lesvieuxcons.fr et euthanasie, ça ne s'invente pas. Les vieux cons, c'est plutôt des vieux rockers orléanais, je pense, je ne les connais pas, mais qui ont compilé des affiches de concerts, des photos, etc. Euthanasie Records, c'est David d'Euthanasie Records qui a fait de vrais dossiers documentaires sur ces groupes-là, notamment une revue de presse de Cominternsec qui fait 149 pages, où tous les articles un peu croustillants que j'ai trouvés, c'est à lui que je les dois. Voilà.
Merci. On précisera que ces disques-là sont réédités régulièrement, Reich Orgasme.
Absolument. Et il y a eu des pirates en Espagne, en Allemagne, tout au long partout, des années 90. Ouais. Et maintenant, il s'est ressorti justement. Euthanasie Records, il a repressé à peu près tout.
Ces disques-là sont disponibles à peu près partout.